Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette émission, le Canada réussit enfin à atteindre ses cibles d'immigration francophone hors Québec, 16 000 nouveaux venus, même dans les territoires du Nord-Ouest.
On est content ici dans le Nord, on est content au territoire du Nord-Ouest, et je crois qu'en expliquant un peu de notre expérience, les gens sont intéressés, en fait. Les gens sont curieux en général.
Marie Hillès franchit le cap du 25 janvier, Journée nationale pour la santé mentale, et partage avec nous l'expérience d'un homme qui a traversé des heures difficiles.
Mon épouse qui voyage chaque jour a vu qu'il me fâchait plus vite. J'étais très fatigué, donc je faisais des siestes. Je me couchais très tôt, puis je me réveillais tard. Donc, sinon, tout est correct, c'était correct.
Et on ne pouvait passer sous silence le départ de Viola Légère, décédée le 28 janvier dernier. Elle sera à tout jamais le symbole de l'identité et de la vigueur culturelle acadienne et francophile au pays.
Quand elle a commencé à jouer la Sagouine, elle pensait qu'elle allait jouer 4 fois. Puis ça a été le personnage, l'œuvre le plus important en Acadie, puis même dans la francophonie canadienne. Ça fait tout un bel exemple de rigueur, puis d'authenticité. Je pense que c'est peut-être ça le legs de la Sagouine, c'est l'authenticité du peuple.
Ceci est plus encore à Point de vue, l'actualité locale pour un auditoire national.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJ. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Merci d'être avec nous. On lance l'émission dans les territoires du Nord-Ouest. On apprenait le 23 janvier dernier que le Canada finalement atteint sa cible d'immigration francophone hors Québec. Ottawa l'avait fixée à 4,44%, soit à 16 300 nouveaux arrivants. L'annonce en a été faite par le ministre fédéral de l'immigration lui-même et des réfugiés et de la citoyenneté, Sean Fraser. En 2006, seuls 2 800 immigrants francophones auraient choisi une autre province que le Québec pour refaire leur vie. L'histoire ne dit pas s'ils restent fidèles à leur premier choix, cependant. L'idée derrière la mesure est bien sûr de renforcer et de préserver la vitalité des communautés francophones hors Québec. Certains de ces nouveaux arrivants francophones n'ont pas froid aux yeux, c'est le cas de le dire. Ils migrent jusque dans les territoires du Nord-Ouest à la recherche d'un avenir meilleur. Ghislain Letourneau, agent en immigration, recrutement et employabilité au Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest, et Abby Chalou, coordonnatrice au réseau immigration francophone des territoires du Nord-Ouest, ont réagi à la nouvelle au micro de notre journaliste Raphaël Hamel.
Ça fait 2 années que je suis dans ce poste-là. Je suis la coordonnatrice du réseau d'immigration francophone des TNO et je travaille sur un plan national avec les autres coordinateurs de réseau d'immigration. Et j'avoue que ça fait un moment qu'on parle de la cible et puis le fait que ça a été éteint, je crois que c'était 1 an de l'avance, c'est très encourageant puis ça me donne beaucoup d'espoir.
Oui, pour moi, donc Ghislain du CDTNO, agent d'immigration, recrutement et employabilité, on parle aussi beaucoup d'immigration économique et c'est exactement dans quoi je travaille. Donc pour moi, c'était un plaisir de voir que nos efforts sont récompensés au final, que la cible n'avait jamais été atteinte auparavant, que c'est la première fois du coup que la cible est atteinte. Donc c'est encourageant. Il y a maintenant, on va mettre les bouchées doubles et essayer d'avoir plus d'immigrants francophones en dehors du Québec, tel que dit la CFA qui veulent avoir 20% en 2036. Donc il y a encore du chemin à faire. Mm-hmm. Mais c'est très encourageant et je pense qu'on peut tous faire du travail qu'on fait pour les communautés francophones en situation minoritaire.
Tu parlais de développement économique un peu plus tôt. La question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que ça représente l'immigration francophone ici au TNO et pourquoi c'est important?
Ben, ça amène, au niveau des entreprises, des employeurs, des organisations, ça amène qu'il y ait plus de personnes francophones bilingues, je dirais, qui travaillent. Donc ça amène, le Canada a quand même 2 langues officielles, le français et l'anglais. Donc ça apporte un atout pour les organisations et les employeurs de recruter de la main-d'œuvre bilingue qualifiée, juste parce que ça leur amène sur des marchés de travail auxquels probablement avant on n'avait jamais pensé à y être ou à le faire.
Ben, je dirais que ça rajoute à la diversité de la ville. Déjà, je crois que Yellowknife, c'est une ville très il y a beaucoup de multiculturalité dans la ville déjà. Et je crois que je sais pas, la francophonie tannoise, ça rajoute quand même beaucoup de valeur à la ville et à la vie.
On est allé faire du recrutement en Europe il y a de cela moins de 2 mois. On est allé en France, on est allé au Maroc. C'est quoi l'objectif en immigration francophone au TNO pour 2023?
Ben c'est d'avoir majoritairement des personnes bilingues, bien évidemment, d'essayer de combler le on parle en économie, en immigration économique, d'essayer de combler le manque de main d'œuvre. Ici au TNO, il y a encore du long chemin à faire, mais on peut voir que nos organismes fonctionnent plutôt bien, qu'il y a quand même un bon nombre de personnes bilingues qui arrivent au TNO de par l'immigration. Donc ça nous encourage encore plus, et quand on voit ces résultats-là, ça nous dit qu'au final on fait quand même du bon travail et que c'est encourageant pour la suite.
On le sait que ça bouge beaucoup ici à Yellowknife. Est-ce qu'on a des chiffres concernant les nouveaux arrivants qui décident de devenir des résidents permanents ici à Yellowknife?
Là, pour le fédéral, eux, ils ne font aucun de traçage par rapport aux personnes qui ont la résidence permanente et qui ensuite bougent d'un territoire ou d'une province à l'autre. Malheureusement, on n'a pas ces chiffres-là. J'ai demandé plusieurs fois, mais ils nous disent qu'eux, ils ne font pas à partir du moment où la personne est résidente permanente, elle a le droit de la mobilité au Canada, donc si elle a des opportunités d'emploi ailleurs, donc la personne est en droit de bouger. Mais c'est une question très intéressante, malheureusement, j'ai pas la réponse.
Mais c'est vrai que c'est quand même bien noté qu'on travaille quand même assez fort sur la rétention. On n'a pas nécessairement les chiffres pour voir exactement jusqu'à quel point est-ce qu'on a des résidents temporaires qui se convertissent en citoyens ou résidents permanents. Mais avec le RIF TNO, dont le CDE TNO fait partie, plusieurs membres qui travaillent en établissement font partie. En fait, c'est ça un peu notre but de mettre un peu l'emphase aussi sur le recrutement, comme on a fait à Destination Canada en Europe, la promotion de la vie dans le Nord, et aussi voir l'impact qu'on pourrait avoir sur la rétention, essayer de mettre en place des actions qui sont plutôt liées à ça et voir ce que nous, en tant que provoyeurs de services ou en tant que réseau, peut contribuer à la nouvelle cible. On verra ce que ça donne, on ne sait pas, mais ouais.
On parlait un petit peu plus tôt de rétention, mais justement, comment on fait pour garder ces nouveaux arrivants-là, ces immigrants, ici, au territoire du Nord-Ouest?
Mais on leur fait découvrir la communauté francophone et puis ils restent.
Ben c'est ça. Honnêtement, quand on était à Destination Canada, par exemple, c'était beaucoup, au moins de mon côté, je racontais beaucoup de mon expérience ici au TNO. Et puis, je crois qu'on est quand même content ici. Ça se voyait, on est content ici dans le Nord, on est content au territoire du Nord-Ouest. Et je crois qu'en expliquant un peu de notre expérience, les gens sont intéressés, en fait. Les gens sont curieux en général. Alors, ouais.
Personnellement, je pense que ce qui les fait rester, c'est la qualité de la vie et puis la multiculturalité des TNO. Et par exemple, on va parler de Yellowknife. De Yellowknife, où il y a une multiculturalité vraiment qui est présente, et on est tous des immigrants, donc ça nous fait rester. Il y a vraiment le sens de faire partie d'une communauté et d'être une personne à part entière. Je pense que c'est ça qui fait que les gens restent à Yellowknife.
Raphaël Hamel.
Bonjour, ici Sébastien Beltran à Halifax. Vous écoutez Point de vue, suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI et écoutez nos reportages sur canada-info.ca.
Restons encore un petit moment dans les territoires du Nord-Ouest pour vous dire que le Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles de Yellowknife accueille pour les prochains mois l'exposition dégustation Délicieux. L'exposition s'intéresse à la nourriture traditionnelle des TNO. Elle présente en outre une sélection de photographies tirées des archives des territoires, présentant les mets et techniques traditionnelles des communautés nordiques. Notre journaliste Raphaël Hamel a pu par exemple goûter à de l'Inkounou, qui s'écrit inconnu, un gros poisson blanc que l'on retrouve au TNO, servi dans une soupe et en grillade. L'exposition dégustation proposera au cours des prochaines semaines du rat musqué, de la perdrix et du pain bannique, un pain plat fait avec de la farine sans levain, du saindoux, du sel et de l'eau, si on l'a sous la main, bien sûr. Madame Irine Souliac, archiviste principale des archives des TNO, nous en dit plus.
On ne peut pas enlever la culture de la nourriture et la nourriture de la culture. Ce sont des choses qui vont ensemble. C'est une façon de s'identifier. On voulait choisir un thème qui pourrait être facile à identifier, même si tu visitais de quelque part d'autre. On voulait un thème qui pourrait être représentatif de toutes les régions du Nord. On voulait trouver un thème qui faisait chaud au cœur. Chaque fois qu'on visitait l'idée, la nourriture, ça venait toujours. Ouais, alors, c'était, on se disait, ouais, c'est facile, ça. On pourrait bien exprimer beaucoup d'idées sur ce thème-là.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, nous prenons maintenant un moment pour vous parler de Viola Légère, héroïne de l'Acadie et l'une des plus grandes ambassadrices culturelles. Elle nous a quittés le 28 janvier dernier. Elle avait 92 ans. La comédienne Viola Légère a marqué l'imaginaire de plusieurs générations avec la pièce de théâtre La Sagouine. Née le 29 juin 1930, Viola Légère a rendu célèbre donc ce personnage de La Sagouine, écrit, enfin rendu vivant par la dramaturge et grande écrivaine Antonine Maillet, qui lui survit d'ailleurs. Viola Légère a interprété cette pièce pour la toute première fois en 1971 et ensuite en français et en anglais au Canada, aux États-Unis et en France. Elle a également occupé le poste de sénatrice au Canada entre 2001 et 2006. Depuis l'annonce de son décès, ben, vous vous en doutez, les hommages affluent de toutes parts. La ministre fédérale des langues officielles, Ginette Petitpain-Taylor, a souligné que jamais l'Acadie n'aura eu une aussi fidèle ambassadrice que Madame Légère, pour qui le personnage de La Sagouine fut non seulement le rôle d'une carrière et d'une vie, mais aussi un symbole de grande fierté et de ténacité pour tous les Acadiens et Acadiennes, dit-elle. Viola Légère aura interprété au-delà de 30 rôles et parmi eux, plusieurs personnages créés par Antonine Maillet. Depuis 1993, Viola Légère jouait tous les étés au pays de la Sagouine, un centre culturel et haut lieu du tourisme à Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, a souligné son départ. « Nous perdons, dit-elle, une femme extraordinaire, talentueuse et ancrée dans sa communauté, mais son écho continuera très longtemps de se faire entendre. » Viola Légère était officière de l'Ordre du Canada et membre de l'Ordre du Nouveau-Brunswick. Elle avait créé la Fondation Viola Légère afin de promouvoir et de développer le théâtre en Acadie. Notre journaliste Daniel Aucoin a recueilli les commentaires de Luc Leblanc, lui-même comédien au Pays de la Sagouine, à Bouctouche, de sa collègue Monique Poirier, co-directrice au Pays de la Sagouine, et enfin Phil Como, un cinéaste acadien.
Ben, moi, je pense que c'est immense, immense. À cette époque-là aussi, il ne faut pas oublier que la Sagouine, c'est parti dans les années 70, où l'Acadie parlait pas beaucoup, hein. C'était plutôt les anglophones, Fallester, et est arrivé ce personnage-là qui disait tout fort ce que les Acadiens pensaient tout bas.
Ta nationalité qui te demande. Citoyenneté, nationalité. C'est malaise à dire, je vis en Amérique, ben, je sens pas des Américains, hein, non. Les Américains, travaillent dans des shops aux États. Puis, ils sont venus se promener par ici tout l'été, sur nos côtes. En culotte blanche.
À l'extérieur du pays, c'était tellement pertinent parce que c'était drôle en même temps. Puis en même temps, c'était très, très intense. Puis les gens ont comme vraiment adopté le personnage de la Sagouine parce qu'il y avait cette puissance-là. Puis ça, c'est partout, là, partout. Puis nous, ben, les petits Acadiens qui étaient pas sûrs si c'était pour nous la scène, si on était habitués de faire les parties de cuisine puis des choses du genre, ben, là, on a réalisé qu'il y avait une Acadienne, personnage, qui pouvait jouer sur les grandes scènes du monde entier parce qu'elle a même joué dans un festival à Monaco. Ben, ça nous a donné un coup de pouce pour entrer dans le métier puis de le faire nous aussi, là, tu sais.
Ben, je pense qu'on a juste besoin de se promener dans les médias sociaux depuis qu'on a appris le décès de Viola Légère, pour constater l'impact puis l'importance du travail de cette femme-là en Acadie, dans toute la francophonie canadienne, puis même à l'international. C'est inestimable l'impact que cette femme-là a eu, oui, dans son travail extraordinaire comme La Sagouine, son travail comme comédienne, mais aussi comme sénatrice, aussi comme comédienne qui a interprété d'autres rôles aussi. C'est difficile à mettre en mots à quel point elle a vraiment teinté l'âme à acadienne.
C'est malaisant de faire ta vie quand c'est que t'as pas même un pays à toi, puis tu peux pas nommer ta nationalité parce que tu finis par plus savoir qu'on sait que t'es en tout. Tu te sens comme si t'étais trop, ben qu'il y avait plus personne qui voulait de toi.
Puis quand je dis l'âme acadienne, c'est pas géographique, là. C'est pas le pays de la Saguenay-Lac-Touche, c'est pas... C'est l'Acadie dans tous les sens du mot. C'est un legs extraordinaire, vraiment.
Ben, c'est un icône, Viola Lévert. Tout le travail qu'elle a fait, entre autres avec la Saguenay, a fait que l'Acadie a rayonné à travers la planète, presque. C'est une femme avec un talent énorme comme comédienne. J'ai travaillé 3 fois avec elle comme réalisateur. On avait fait la série La Saguenay, entre autres, là, 12 demi-heures, 12 monologues pour Radio-Canada en 2007. Et puis, c'est une comédienne extraordinaire. On n'avait jamais besoin de faire une deuxième prise, tellement elle était bonne, là. Ensuite, j'avais tourné aussi, elle a fait partie de mon film Le Secret de Jérôme, que j'avais tourné en 1994, qui était le premier long métrage acadien. Et elle avait joué le rôle du propriétaire du magasin de la communauté. Puis j'avais aussi tourné avec elle la série Les couleurs de mon accent, dont on avait tourné des scènes d'ailleurs à Chiticamp. Ça, c'était en 2003. Donc, et dans cette série-là, elle voit la mère d'Isabelle Cyr, la comédienne Isabelle Cyr. Donc, j'ai évidemment, avec toutes ces expériences-là, je suis devenu un très grand ami de Viola à travers les années. Puis, dans les dernières années, on se parlait quasiment tous les semaines. Fait que, on savait que ça allait arriver, parce que ça faisait 5 ans qu'elle avait eu son AVC, et puis on savait que sa santé allait dégrader, mais c'est ça. C'est 5 jours qu'on m'avait averti que ça allait moins bien, fait que je me suis préparé mentalement.
C'est donc une grande dame acadienne qui nous quitte après avoir marqué l'imaginaire de plusieurs générations avec la Saguenay. Viola Légère comptait parmi les plus grandes artistes canadiennes, étant connue en tant que comédienne et interprète. Pour nous parler du plus grand legs de Viola Légère, on écoute encore une fois Luc Leblanc, Monique Poirier et Phil Comeau.
Ben, son legs est immense, là, mais moi je vais y aller bien sûr avec le pays de la Saguenay, parce que le pays de la Saguenay est devenu un terreau pour les artistes acadiens, que ce soit en musique, que ce soit au niveau de la scène. Puis ce pays-là est un grand centre culturel, tu sais. Puis nous autres, s'il n'y avait pas eu le pays de la Saguenay, ben je ne sais pas s'il y aurait eu autant de comédiens qui seraient restés en Acadie. Tu sais, mais là, en ayant ce travail-là, puis qui est proche de notre culture, puis qui on dirait que c'est comme un win-win. on réussit à faire de la comédie, faire du théâtre, puis en même temps, on a conservé une partie de notre culture acadienne. Puis ça, pour moi, c'est chapeau à Viola Légère. Puis pendant les années à venir, parce que les deux scènes principales s'appellent les scènes Viola Légère. Donc moi, je trouve que c'est un privilège de jouer sur la scène Viola Légère. Ça l'était avant et ça va l'être d'autant plus à partir de maintenant.
Ben, le plus grand legs de Viola, je pense que c'est la Saguenay. Je pense que c'est ce personnage-là. Puis, plus personnellement, je pense que c'est aussi un exemple d'une artiste qui n'a jamais mis de date limite à quoi que ce soit. Elle a commencé à jouer ce rôle-là, elle était dans la quarantaine. Tu sais, combien de personnes à 40 ans, 50 ans, 60 ans vont se dire « Ah, il est trop tard. » Tu sais, il est trop tard pour tel projet ou pour tel rêve ou pour telle entreprise. Mais elle n'a jamais mis de date limite à ça. T'sais, quand elle a commencé à jouer la Saguenay, elle pensait qu'elle allait jouer 4 fois. Puis ça a été le personnage, l'œuvre le plus important en Acadie, puis même dans la francophonie canadienne. Ça fait je trouve que c'est un bel exemple de ça, puis de rigueur, puis de d'authenticité. Je pense que c'est peut-être ça le legs de la Saguenay, c'est l'authenticité du peuple.
c'est d'avoir aidé à faire connaître l'Acadie à l'étranger, mais aussi de nous avoir aidé à faire comprendre que notre culture est forte et que notre culture peut voyager, peut rayonner à travers la planète. Et donc, c'est un grand legs. C'est une de nos premières ambassadrices. Donc, éternellement reconnaissant.
En terminant, mentionna que la Société nationale de l'Acadie a salué une icône de notre peuple et sa fière porte-parole. Viola Légère incarnait à elle seule le parcours de l'Acadie moderne, a déclaré son président, Martin Théberge. Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
On soulignait il y a quelques jours, le 25 janvier, la Journée nationale de la santé mentale au Canada. Marie-Hélène a pu discuter de santé mentale avec un homme qui a lui-même été en crise. Nicolas Laplante a vu son comportement changer au fil de la pandémie. Il dit que c'est sa femme qui l'a remarqué en premier. S'il se sent beaucoup mieux aujourd'hui, il a un conseil pour tous les hommes qui souffrent. Il leur dit surtout de s'écouter, de ne pas s'oublier, car c'est ce qui lui est arrivé. L'histoire de Nicolas rapportée par Marie-Hélène à Ottawa.
L'acceptation était difficile à cause que je voulais pas être un poids sur ma famille. Je voulais pas être la personne qui sentait pas bien, qui était pas capable d'être là pour ma famille, d'être la personne forte comme il y a des préjugés que les hommes doivent être forts et pas toujours montrer leurs émotions. Mon comportement, mon attitude, ma joie de vivre semblait être affectée. Puis mon épouse qui voyage chaque jour a vu elle-même la dégradation de mon comportement puis de mon attitude, etc.
Il parle des signes qui l'ont alerté, lui et son épouse.
J'étais très sensateur de peau, moins patient. Je me fâchais plus vite. J'étais très fatigué, donc je faisais des siestes à chaque heure de dîner. Je mangeais puis j'allais faire une sieste de 45 minutes. Je me couchais très tôt puis je me réveillais tard. Donc, elle me l'a parlé à plusieurs reprises. C'est moi qui l'entends. Une personne qui ne veut pas désappointer les autres. Je dis non, tout est correct, tout est correct. Je me suis un petit peu entêté jusqu'à temps qu'elle m'ait fortement suggéré de voir un psychologue et de voir mon docteur.
Il mentionne la pression venant de son travail.
Travail, j'avais aussi une opportunité où j'avais un intérimaire, donc je voulais pas affecter négativement ma carrière. Donc, je mettais de côté mes sentiments et comment je me sentais pour pouvoir produire au travail puis démontrer que je suis capable de faire le travail pour espérer avoir une promotion par la suite. La dépression chez les hommes se montre d'une différente manière. C'est pas seulement être triste ou se sentir dépassé, c'est plus genre l'esprit de compétitivité, le vouloir être meilleur, se mettre à l'arrière puis se fâcher plus facilement. Chose comme ça, c'est des signes de dépression chez les hommes.
Nicolas souligne qu'il a eu le soutien de sa femme. Il voit son psychologue et aujourd'hui se sent beaucoup mieux.
Je suis encore un petit stresseur. C'est fantastique. C'est pas une grosse quantité, mais ça l'aide pour régulariser mes émotions. En même temps, je vois un psychologue à chaque 2-3 semaines. On se parle un peu de tout et de n'importe quoi. Ça fait du bien parler avec quelqu'un qui ne me connaît pas. C'est quelqu'un que je peux facilement en discussion. Et c'est un différent aspect. C'est le fun à cause c'est un homme aussi, donc on peut parler des mêmes choses. Aussi avoir une épouse qui me supporte puis qui comprend qu'est-ce que je passe à travers, ça fait beaucoup. Puis c'est important de s'écouter soi-même puis de pas s'oublier. C'est ça qui est arrivé. Je me suis oublié à cause de le travail, ma femme qui était enceinte, qui avait une grossesse difficile, la pandémie, donc je voyais pas les gens, donc c'est ça, je me suis pas mis de l'avant, je me suis pas pris de réserver du temps pour moi, pour me ressourcer.
Bonjour, ici Marie-Hélène à Ottawa, en Ontario. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et pour conclure cette émission, il n'est pas commun pour nous d'entendre des enfants et des adolescents à la radio. Et quand on en a la chance, bien, on saute sur l'occasion. Le lancement du tout premier album de Dominique Fréchette, une jeune artiste françaisoise âgée de 13 ans, est l'occasion parfaite pour nous de le faire. Elle qui vient de lancer « Pas de ma faute », son mini-album disponible depuis le 9 décembre dernier, a reçu l'appui de l'organisme Le Réveil et du Conseil culturel françaisois. Notre journaliste Élie Nkoulou l'a rencontrée.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Peux-tu un peu nous parler de toi, de ta musique, des choses qui t'ont motivé à te lancer dans ce domaine-là?
Moi, ça fait vraiment longtemps que je chante. Je pensais toujours que je voulais faire ça. Mais je pense aussi vraiment que qu'est-ce qui m'a vraiment inspirée à commencer à chanter, c'était la famille Campagne, puis vraiment Carmen Campagne, puis mon oncle Sean aussi, Sean Jovin. Lui, il m'a vraiment inspirée à tout faire ça. Quand j'étais jeune, on chantait toujours ensemble, puis je pense que c'est... Aussi, je pense que ça sort beaucoup de mes émotions.
Oui.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup pour m'exprimer. Puis j'aime vraiment trop ça. C'est vraiment fun.
Et quel sentiment tu as de te lancer comme ça de la musique? Qu'est-ce que tu ressens?
Chanter devant un foule, avoir des personnes chanter avec moi aussi, c'est vraiment juste, c'est beaucoup de fun. Puis je pense que c'est vraiment excitant. Puis je suis juste vraiment contente d'être là. Puis... Mais aussi, il y a beaucoup de stress pour être jeune chanteuse comme moi. Mais non, c'est vraiment beaucoup de fun. Rencontrer plein d'artistes puis rencontrer des personnes.
Parle-nous un peu de ton titre « Pas de ma faute ». De quoi ça parle exactement?
« Pas de ma faute », c'est une chanson très touchante pour moi. Ça parle vraiment des enfants qui sont pas dans des maisons stables ou correctes ou pas vraiment bien pour eux. Le titre de la chanson « Pas de ma faute », ça veut juste rappeler aux enfants qui sont partis dans ça que c'est pas de leur faute. Il faut juste vraiment qu'ils pensent que ça va jamais être leur faute. Et je pense que c'est vraiment juste pour dire qu'ils devraient pas penser ça parce que même s'ils pensent ça, c'est pas bon puis ça peut... vraiment pas aider à eux autres. C'est tellement triste de savoir qu'il y a des enfants qui sont partis dans ça puis ils se blâment pour ça tout le temps. Puis c'est juste une chanson pour dire que c'est vraiment pas de leur faute et ils devraient pas penser de ça.
Ce n'est pas la faute d'un enfant, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas choisi le début de ma vie. Ce n'est pas la faute d'un enfant.
Dominique Fréchette, maintenant lancée dans ta carrière musicale, quel conseil peux-tu donner aux jeunes de ta génération? Tu sais, il y en a plusieurs qui veulent vraiment faire comme toi, aussi avoir le même courage que toi, mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont trop jeunes pour ça. Quel conseil pourrais-tu leur donner?
Moi, je les dirais de se croire en même puis de pas avoir peur parce que j'ai presque 14 ans puis depuis ces années-là, je me suis améliorée à chaque année parce que quand moi je me grandissais, je pensais toujours que j'étais pas bonne puis je voulais plus faire ça. J'ai réalisé que à chaque année puis à chaque fois que je fais une différente chanson puis à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je m'améliore. Ils vont aller sur un stage un jour puis ils vont chanter leur cœur puis ils vont avoir plein de fun puis même si tu as peur, au fin de la soirée, tu vas être content avec ton performance et tu vas être content parce que tu as eu du fun. C'est vraiment, c'est qu'est-ce qu'il veut faire, c'est qu'est-ce qu'il aime faire, fais-le. C'est ta vie, c'est ta carrière, fais qu'est-ce que tu veux.
Très ambitieux. Je pense que ça va motiver non pas seulement les personnes de ta génération, mais aussi les adultes qui vont t'entendre dire ça. Dominique Fréchette, une courageuse artiste françaisoise de près de 14 ans, je te souhaite une belle aventure dans ta carrière musicale.
Merci beaucoup.
Et c'était Linkoulou, journaliste pour IGL.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à nos collaborateurs, Marie Hillès, Céline Coulou, Daniel Aucoin, Raphaël Hamel, coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Notre mission est de vous présenter l'actualité locale partout au pays. Vous en voulez plus, bien sûr? Bien, retrouvez une avalanche de reportages sur le site de canada-info.ca, canada-info.ca. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été là, restez à l'écoute de l'émission qui suit. À la semaine prochaine.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.